Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur, tu vas te régaler.
Ah, c'est pas faux.
Non ! Non !
Mon pinaise, oui !
Pas ça ! Non !
Dites mon nom.
Non ! Non !
Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes.
Merci, 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 merci. Écoutez, je dirai pas loin, comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir, bip, bip.
Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui. Dans la collection du moment, on vous parle des Sopranos, série culte de HBO qui a dynamité le petit écran. Et comme d'habitude, on prend notre temps pour creuser le sujet sur plusieurs épisodes. La semaine dernière, on vous a raconté pourquoi la série de David Chase faisait figure d'ovni pour le public à sa sortie en 99 et en quoi est-ce qu'elle est si exceptionnelle. Aujourd'hui, pour ce second épisode, on va se concentrer sur les personnages de la série et je vous préviens d'avance, ça va être dense. Pour tirer le portrait de cette grande famille, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane.
Salut Clémence.
Et Rafik Djoumi. Salut Rafik.
Salut Clémence.
Alors les garçons, est-ce que vous êtes prêts pour attaquer ce gros morceau ?
Prêt. On se jette à l'eau parce qu'on ne sait pas du tout où on va. Sur une série aussi énorme, c'est... Voilà.
Allez, bah on y va tout de suite. On commence par...
Tony, ah.
Forcément.
Bah oui, ah oui. Évidemment, on va commencer par Tony Soprano, incarné par James Gandolfini à l'écran. C'est le personnage principal donc, de la série, à la fois mafieux, mari, père de famille en thérapie. Au fil des épisodes, on creuse un peu plus chacune de ses facettes qui sont autant de portes d'entrée vers sa psychologie.
Oui, tout à fait, c'est vrai. Et en fait, c'est un personnage assez complexe qui émane, je trouve, à la base d'un archétype, en fait. C'est un archétype de patriarche mal alpha qui gère, on va dire, sa petite tribu d'une main de fer et qui, effectivement, se retrouve à avoir des crises d'angoisse et d'un seul coup, bah voilà, c'est pas tant que sa vivacité parce que justement il faut qu'il maintienne une certaine logique d'apparence quoi. Et c'est un personnage je trouve assez intéressant parce que c'est ouvertement comme on l'a dit dans le premier épisode un tueur en fait, c'est ouvertement un mafieux, un criminel hein, je veux dire c'est il y a pas d'autre mot. Et en même temps, il y a un énorme attachement de la part du spectateur pour ce personnage-là et surtout en fait moi j'ai remarqué en le regardant la série, par exemple, avec différentes personnes ou en parlant avec différentes personnes, à quel point, en fait, finalement, le côté père de famille et donc le côté presque rassurant du mec ressort, en fait, pour beaucoup de gens. Genre, ah, le pauvre Tony. Et t'as envie de dire, mais le pauvre Tony, il a tué quelqu'un là, il a trompé sa femme là.
Mais oui, mais en même temps, quand tu le vois qui pleure devant des canards dans sa piscine avec son peignoir, on dirait juste un gros nounours, on a envie de lui faire un câlin.
Mais c'est le pouvoir de la narration, de la fiction. C'est ça qui est assez génial, en fait. Hein. C'est-à-dire que l'idée même d'avoir de l'empathie pour un personnage que tu potentiellement détesterais dans la vraie vie, en fait, ou en tout cas dont tu aurais peur, ça, clairement, tu vois, et beaucoup, tu serais beaucoup plus terrifié par ce personnage-là dans la vraie vie. Puis, bon, voilà, tu vois, je veux dire, il est littéralement incarné par Gandolfini. C'était le rôle de sa carrière, quoi. C'est vraiment intéressant de montrer que c'est un personnage dont l'aura protectrice et tout ça, etc., existe vraiment à travers même tous les crimes qu'il peut commettre. Et ça, c'est mine de rien, c'est une manière de montrer que y a des vraies finesses d'écriture en fait dans la façon de démontrer ce personnage-là, quoi.
Alors, il faut savoir que ce personnage est largement inspiré d'un vrai parrain, un parrain de la famille de Cavalcante du New Jersey. Qui s'appelle Vincent Vinny Ocean Palermo.
Ouais.
Voilà, donc inspiré d'un véritable mafieux. Et Tony, donc Soprano, a deux familles, sa famille Soprano et la famille Di Meo, qui est sa famille criminelle.
Ouais.
Tout à fait. Mais le fait est que avant, comment dire, de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire de le montrer commettre des actes barbares, il nous est d'abord présenté plus ou moins dans sa fragilité. Donc, déjà physiquement, parce que effectivement il y a cette image du mec en robe de chambre qui va récupérer son journal, qui bon d'emblée il y a, comme tu l'as dit, il y a un côté beauf, il y a un côté pas dangereux. Finalement, tout ce qu'il veut, ce mec, c'est vivre dans sa maison tranquille, qu'on lui foute la paix. Et ensuite, donc, les fameuses crises d'angoisse qui le prennent et qui vont le pousser à faire sa thérapie. Quand il arrive chez la thérapeute, on a l'impression de voir un gros bébé, quoi. Il sait pas où il a mis les pieds, il comprend rien à cet univers. Donc, il y a des tas d'éléments scénaristiques qui sont donnés pour que, justement, on ait une certaine affection, un sentiment protecteur à son égard.
C'est comme si ça dédramatisait le côté mafieux dans un premier temps pour nous le recoller encore plus violemment par la suite.
Bien sûr, en nous rappelant que il vit de ça, en fait. Alors, par contre, c'est pas un psychopathe, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui nous est montré jouir du meurtre. C'est-à-dire c'est souvent il y a des actes de colère, ça c'est évident, mais comment dire, on n'a pas affaire à... J'ai pas forcément d'exemple en tête, mais un criminel froid, méthodique, comme peut l'être
Joe Pesci dans
Les Affranchis.
Par exemple,
c'est ça. Ouais. Voilà, on n'aurait pas pu faire une série avec un personnage comme Pesci, ça aurait été trop demandé au spectateur. Il faut qu'il y ait un terreau commun, en fait. Alors, effectivement, le public qui regarde, il se dit bon, moi, je tue pas des gens. Mais par contre, pour le reste, je peux comprendre. Je peux comprendre que ce mec qui a bossé toute la journée, qui est le boss quelque part, le contremaître en tout cas, quand il rentre chez lui, il devient littéralement l'esclave de sa femme. Ça, je connais. Je peux m'identifier à sa problématique et à sa frustration, etc. Quoi.
Ouais, puis c'est ce que disait David Chase en fait sur la série, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, en dehors du fait que ce soit un mafieux. Bah, c'est un personnage qui, effectivement, a hérité du business de son père. Donc, en fait, il était dedans, voilà, il a fait ça parce que son père faisait ça.
Il est le produit de son environnement, très clairement. Ouais.
C'est ça.
La question de la transmission et de l'héritage est traitée.
Il est en plein dedans, parce que lui, de toute façon, c'est un des trucs qui fait que, justement, il n'arrive pas à accepter, en fait, c'est entre l'héritage tribal et justement, en fait, l'idée d'exister par soi-même, en fait, là-dedans. Et je pense aussi, il y a un autre truc, c'est que, la série s'appelle Les Sopranos, comme, par exemple, Les Simpsons s'appellent Les Simpsons, et en fait, il y a quand même cette idée de, même si c'est pas le sujet principal, d'analyser le mal américain moyen et de dire, en fait, en gros, OK, comment cette image, en fait, de protectrice, de patriarche, de machin. En fait, qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce que voilà. Et du coup, en fait, quand tu vas chercher un mafieux qui est quand même en fait sanguin, qui est quand même machin, tout ça, et que tu casses en fait ce truc, tu montres effectivement un personnage attachant. Voilà.
Et oui, mais finalement, il y a ce côté. Si on enlève les histoires de mafia, on se retrouve simplement avec un mec qui fait sa crise de la quarantaine, de la cinquantaine. Mmh.
Il y a une promesse, il y a une promesse qui est donnée dans son rapport avec le docteur Melfi qu'on va voir ensuite. Et je pense qu'elle est importante narrativement. C'est une promesse faite au spectateur que ce personnage peut s'améliorer et qui ne sera finalement pas tenu.
Alors, ça tombe très bien qu'on parle du docteur Jennifer Melfi, puisque c'est le second personnage dont je voulais qu'on parle aujourd'hui. Ce docteur, donc psychiatre de Tony, elle est interprétée par Lauren Bracco. Alors, Lauren Bracco, c'est pas n'importe qui. On reviendra sur elle dans l'épisode sur le cast. Mais ce qu'on peut dire, c'est que elle a joué dans d'autres films de mafia, hein, dans Les Affranchis. Et au fil des saisons, elle noue avec Tony une relation assez particulière, avec des alternances de fascination, de répulsion, de séduction. Voilà, il y a vraiment un lien qui se crée entre les deux. Et puis, elle a aussi ce rôle vis-à-vis du spectateur d'être un peu les moments où Tony se rend chez sa psy. C'est un peu des espèces de bulles hors du temps.
Déjà, oui, elle représente un peu la normalité pour le spectateur parce qu'elle évolue dans un milieu où on ne tue pas les gens pour vivre. Donc, elle est aussi le regard que nous, public, pouvons avoir sur ces gens-là et sur leurs coutumes, entre guillemets. Et puis, bien sûr,
y compris dans la fascination.
Et puis, bien sûr, elle est là aussi en tant qu'observatrice, elle observe les comportements de la même façon que nous, spectateurs, on observe les comportements. Donc, c'est un lien, une transition absolument essentielle sur le plan narratif. Et il y a un moment très intéressant dans la série, qui est que elle se fait violer dans un épisode très durement, et son violeur s'en sort à très bon compte, il est arrêté, et finalement il est relâché sur un vice de forme, et elle qui doit passer par la justice pour tout le monde, on va dire, elle ressent une frustration absolument amère et terrible par rapport à cette situation-là, et à un moment donné, elle a un accès une pulsion meurtrière qui la travaille, elle se dit, elle pourrait très facilement tuer ce mec simplement en disant à son patient qu'elle a été violée, quoi.
Et elle fait le choix de ne pas le dire à Tony Soprano en se disant, j'ai la possibilité de le faire et ça me suffit.
Ça me suffit, ouais.
Pour me rassurer.
Mais ça donne aussi une idée du pouvoir qu'elle réalise d'avoir entre les mains justement cette bête sauvage qui est ce mafieux. Enfin, c'est un truc qui revient souvent dans les films de mafieux, cette idée que la société les condamne, mais en même temps, la société a besoin de gens comme nous. Elle a besoin de contenir sa violence dans cette bulle, en fait, qu'on peut regarder en se bouchant le nez.
Et après, il y a l'idée, en fait, si tu veux, qu'une fois qu'on a effectivement parlé de cet arc narratif pour ce personnage-là, c'est un personnage, comme je disais, en fait, dans l'épisode précédent, qui disparaît au fur et à mesure. C'est-à-dire, pas tant... Elle sert peut-être presque un peu plus de fonction. Elle existe parce qu'elle est bien incarnée, mais en fait, elle sert de fonction, on va dire, narrative. Et du coup, d'une certaine manière, en fait, elle n'est pas seulement la psy de Tony Soprano, elle est la psy du spectateur, parce que en fait, elle pose les questions que le spectateur se pose, et en même temps, en fait, elle donne les réponses que Tony se pose sur les questions qu'il se pose lui, sans que lui-même n'arrive à forcément toujours à les accepter. Et du coup, comme la série rentre de plus en plus en fait dans l'idée même en fait qu'on est dans l'esprit de Tony Soprano, bah en fait, elle a de moins en moins, on va dire, d'importance pour voilà. Mais par contre, elle était une extrême importante porte d'entrée dans les logiques psychanalytiques en fait de voilà, et d'expliquer ça en fait d'un point de vue narratif, parce que j'imagine que si t'as pas fait de thérapie, en fait, en gros, tu peux pas forcément comprendre ce que ça implique exactement, en fait, quand tu te retrouves dans des sessions comme ça, et que même si, voilà, donc il y a l'idée que ce qu'elle va avancer, il y aura des séquences qui le montrent avant ou après, en fait, ah oui, ça faisait référence à ça, d'accord, le spectateur comprend. Ça, c'est effectivement le terreau narratif. Mais il y a aussi l'idée que, voilà, on évoque des choses, ouais, qui sont de l'ordre de l'inconscient, et que voilà, la série est importante là-dessus. Elle est vraiment, elle était même novatrice là-dessus, on va dire, pour en tout cas dans l'idée de d'amener ça au grand public. Et ce personnage, du coup, il est très important de ce point de vue-là, quoi.
Au sens où justement, je parlais de promesses qui est faite, parce que c'est dans la tradition de la télévision américaine aussi de montrer des personnages qui peuvent s'améliorer et en même temps de s'assurer qu'ils ne changent pas, parce que justement on les fait durer sur des saisons entières. L'idée de cette thérapie, pour un public qui n'est pas familier forcément de ce que c'est qu'une thérapie, il y a quand même cette idée qu'il va se soigner, c'est-à-dire qu'il va aller mieux. En fait, non, il ne va pas aller mieux, il va simplement comprendre peut-être un peu mieux la source de ses problèmes, mais il restera finalement ce gars-là en proie à ces choses-là. Et aussi, ça prépare le spectateur à une forme de déception. Tu n'auras pas ce bonbon à l'arrivée.
Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant à souligner, c'est que le fait même qu'il fasse une thérapie est un enjeu dans l'histoire par rapport aux autres personnages, par rapport au milieu dans lequel il évolue. Sa femme, Carmela, est ravie quand il lui annonce ça. Lui, il est un petit peu gêné, il n'a pas l'air de vraiment assumer ça. Et elle l'accueille avec un grand sourire en disant « Oh, mais c'est une excellente nouvelle !» Et donc, je vous propose tout de suite qu'on parle de Carmela Soprano, qui est l'autre personnage féminin qu'on voit beaucoup dans la série, incarné par Edie Falco. Donc, c'est une femme au foyer dévouée, une mère de famille. Je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser nous raconter un petit peu vous qui elle est.
Moi, je trouve que c'est un personnage assez attachant parce que, comment dire, elle est encore plus en fait que Tony, elle est engoncée dans les principes de tradition tribale, quoi. Et se retrouve en fait dans des situations. Ouais, j'en parlais dans l'épisode précédent, l'idée qu'elle puisse potentiellement avoir une aventure avec le curé. de sa paroisse, en fait, c'est un des trucs, comment dire, où elle sait pas où elle s'en, enfin où elle sait pas où elle en est. Il y a un jeu, en fait, dans ce milieu-là, en fait, elle a aussi un flirt assez prononcé avec un autre personnage qui est un homme de main italien, en fait, qui vient littéralement de là-bas, qui représente en fait.
Furio.
Voilà, c'est exactement qui représente en fait, on va dire, son héritage à la fois et puis en même temps cette espèce de, comment dire. De romantisme qu'elle n'a absolument plus du tout en fait avec avec Tony à ce moment-là quoi et qui en même temps est extrêmement dangereux parce que ce que ses amis quand elle en parle avec son ami Ro notamment en fait elles en parlent en fait à table elle lui dit mais si couche avec mais en même temps Carmela elle sait que si c'est le cas en fait l'autre il est condamné à mort littéralement condamné à mort c'est-à-dire il aura couché avec la femme du boss donc ce n'est pas possible ce n'est pas concevable et du coup ça génère c'est pas seulement qu'on parle on prend une petite pastille sur elle et on raconte cette petite histoire cette sous-intrigue c'est qu'on raconte aussi en même temps l'histoire de la famille et l'histoire en fait de la famille de la mafia
donc quelles sont les règles
voilà exactement et du coup pour moi ça c'est la meilleure écriture parce qu'en fait d'un seul coup on a à la fois l'aspect émotionnel en fait de comment dire du personnage, le côté attachant en fait que ce personnage complètement coincé en fait dans son rôle et dont elle rêve désespérément de sortir quoi et elle peut pas donc en fait elle s'arrange avec la réalité elle s'arrange avec le fait que il y a une saison entière où ils sont séparés et en fait est-ce qu'ils vont se remettre ensemble et nous-mêmes en fait les spectateurs on se pose cette question tout en sachant que quelque part ils sont quand même encore ensemble c'est pas vraiment ils sont pas vraiment séparés
c'est juste une phase
voilà c'est ça et que en fait parce que c'est justement c'est ancré dans leur fonctionnement et il y a en fait l'aspect ce que je dirais presque anthropologique en fait on va dire de la série qui bon fait ça tout le temps en fait hein. C'est pas que le personnage de Carmela là je parle vraiment de cet exemple là mais en fait la série elle a un côté vraiment anthropologique où en fait on va vraiment étudier un microcosme, en fait, et on va se dire, OK, comment fonctionne ce microcosme et qu'est-ce que ce microcosme dit sur le macro, en fait, sur le monde macro, quoi. Et voilà, il y a ce truc... ça, c'est un des exemples, en fait, je trouve, les plus efficaces, en fait, d'écriture, de qualité et surtout d'exploitation du personnage.
Le fait d'en avoir fait un personnage attaché à la tradition religieuse est effectivement important par rapport aux contradictions qu'elle entretient, puisque donc elle vit avec un mec qui brise tous les commandements connus de l'Église régulièrement. Elle pense avoir mis ses enfants à l'abri du besoin, mais en même temps ils sont exposés à tout le reste, puisqu'ils sont des cibles désignées du FBI, de l'État, des autres gangsters, etc. Donc, elle est toujours... elle n'a pas de bon choix possible, en fait. Comme le dit, tout ce qu'elle peut faire, ce sont des arrangements. En même temps, il y a à peine caché sous la surface un sens extrêmement... Elle est extrêmement matérialiste. Elle n'hésite pas à mettre dans la gueule des gens son pognon. Elle a une vue du... luxe absolument presque digne d'une gamine. Enfin, le voyage qu'elle fait à Paris dans un épisode, c'est vraiment des minettes hein, qui sont mises en scène, limite des Spice Girls, quoi. Enfin, voilà. Et aussi, son addiction à la violence représentée par Tony, parce que il faut pas se leurrer, on se doute que ce mec-là, il dort pas au plumard, quoi. Donc, c'est cette bête, il y a aussi quelque chose de... comment dire, de désirable dans la violence que Tony représente.
Alors, on va pas avoir le temps de le faire aujourd'hui, malheureusement, mais un jour, j'ai vraiment très envie qu'on fasse un comparatif entre le personnage de Carmela Soprano et celui de Skyler White dans Breaking Bad, qui lui est postérieur. Mais je suis sûre qu'il y aurait beaucoup de choses à dire dans la comparaison entre les deux, en tant que femme de criminelle. En attendant, je vous propose qu'on passe au personnage suivant, qui est Christopher Moltisanto. Alors, il est présenté très souvent par Tony comme son neveu. En réalité, c'est un cousin de Carmela, mais bon, Tony a beaucoup d'affection pour lui. Il le voit finalement, en tout cas pendant un temps, comme son potentiel successeur.
Alors, moi, je trouve que c'est une des figures peut-être les plus tragiques, en fait, de la série. Parce que c'est un personnage qui, déjà, en fait, n'avait jamais vraiment connu son père. Et ça, c'est un enjeu, en fait, pour lui. Donc, forcément, en fait, on comprend la relation entre les deux personnages parce que Tony Soprano représente son père, on va dire, quelque part à l'écran, quoi.
Je me dis juste que là aussi, le parallèle entre Christopher et Jesse Pinkman.
Totalement, bien sûr. Mais après, ça, c'est des tropes, effectivement, narratifs. Voilà. Mais ce qui rend le personnage tragique aussi, c'est son addiction. Et tout le jeu autour de ça, parce que, mine de rien, on parle de la thérapie, par exemple, de Tony, mais lui, on le voit régulièrement, en fait, chez les... alors, c'est pas les alcooliques anonymes, mais les addicts anonymes, et ce genre de choses. Il y a aussi, en fait, ce qui le rend tragique aussi, à mon sens, c'est que c'est aussi quelqu'un d'extrêmement faillible. C'est-à-dire que, en gros, c'est quand même quelqu'un qui... alors, bon, c'est difficile de parler de Chris sans parler d'Adriana, qui est aussi une autre figure tragique de la série, quoi. Et là, on spoil, en fait. Elle passe un peu au FBI et ça se passe mal, quoi.
Adriana, c'est la petite copine de Christopher.
Exactement. Et en gros, dans leur relationnel, en fait, c'est un relationnel ultra toxique. C'est-à-dire qu'il la frappe, ouvertement, il lui défonce la gueule à certains moments, et elle continue à rester là, et il l'aime aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, il y a ce jeu qui est là, mais qui est extrêmement destructeur pour eux deux. Et pour le coup, c'est pas forcément lié que à l'addiction. C'est-à-dire que justement, la série fait vraiment la distinction entre l'addiction de Chris et la façon dont lui a été élevé dans ce milieu-là et dans sa façon à lui de s'autoriser en fait à avoir ce genre de comportement-là avec la femme qu'il aime vraiment. Et du coup, je trouve que ça en fait un personnage extrêmement attachant et en même temps très faillible et évidemment presque entre guillemets c'est-à-dire tu te dis putain mais quand il tape sa femme tu te dis mais quel salaud en fait tu vois, t'es en train de regarder ça et voilà et en même temps il y a aussi un jeu avec Tony presque de des fois de manipulation en fait c'est-à-dire que en gros il y a je crois que c'est la saison 4 en fait qui s'ouvre sur un épisode où Tony va le voir et lui dit écoute j'ai retrouvé l'assassin de ton père en gros quoi voilà une arme tu sais voilà où il se trouve il termine à telle heure ou je sais pas quoi. C'est le jour de sa retraite, je crois que c'était ça le truc. Et en fait, on ne saura jamais si c'est vrai ou pas. On ne saura jamais. Peut-être on le saura parce qu'il y a la préquelle qui sort. Donc, est-ce qu'ils vont en parler, j'en sais rien. Mais, est-ce qu'ils vont... voilà, mais ça fait partie des non-dits de la série. C'est-à-dire que vraiment, il y a cette idée qu'ils ont besoin de se débarrasser de ce personnage-là, qu'ils ont besoin de se débarrasser de cet ancien flic ou je ne sais pas quoi. Et en fait, ils manipulent son cousin, son neveu, parce qu'il a besoin de savoir si c'est son vrai successeur potentiel, s'il peut lui faire confiance, etc., etc. Et même lui le sait. C'est-à-dire que Chris, il le dit à un moment donné, quand le mec lui dit « mais je suis pas ton homme, tu vois ?» Et en fait, Chris lui répond « c'est pas grave, parce que de toute façon, mon boss veut que tu meurs. » Et t'as tout ce truc, en fait, tout ce jeu qui est là. Et en même temps, Chris, quelque part, il est toujours là, en fait. C'est-à-dire, il est jusque dans son rapport avec Adriana et la mafia, en fait, si tu veux, il est là pour Tony. Et plus même que la mafia, quoi. Donc, c'est vraiment... C'est ça qui le rend vraiment attachant aussi, quoi.
Il est là pour Tony, mais malheureusement, Tony n'y croit plus. Et Chris finit à tuer par sa main. Dans la dernière saison. C'est assez tragique comme fin.
Tout à fait.
Alors, on va passer au personnage suivant, puisque l'heure tourne. On reste du côté de la mafia. Quelques mots de Silvio Dante, peut-être. Silvio Dante, ami d'enfance de Tony, qui a un rôle assez particulier dans cette famille criminelle, c'est le consigliere.
C'est ça. Et il remplit dans la série quasiment cette fonction-là, effectivement, de conseiller, quoi. Tout le caractère traditionnel, il est représenté par ce personnage-là, en fait. Les règles implantées, celles que... Tony Soprano suit des règles. Dès le début, on nous fait comprendre qu'il a grandi dans ce milieu et il fait tout pour finalement être un mec bien comme il faut dans ce milieu-là. Et celui qui représente ce milieu, qui l'incarne littéralement, c'est effectivement ce personnage, magnifiquement, incarné, je trouve, par Van Zandt.
Ah, tu trouves ? Je trouve que c'est le pire acteur de la série.
Ah ouais ?
Ah ouais, je le trouve.
Moi, je le trouve vrai, en fait. Pour moi, il fait exactement... C'est le mec, le mafieux du New Jersey, c'est lui, quoi.
Il a les cheveux bien gominés, il prend la pose de Kate. C'est lui qui cite tout le temps les... Réplique d'Al Pacino dans Le Parrain 3 qui dit Dès que je me retrouve dehors, ils me remettent dedans.
Tout à fait. Alors, il y a plein d'autres petits jeux hein, comme ça de citations. On parlait à l'instant de Christopher. En fait, il y a une scène où sa copine lui fait remarquer que il pourrait être un bon acteur, etc. Et lui dit « Ouais, je pourrais faire Joey Pesci. » Voilà. Et en fait, Michael Imperioli se faisait tuer par Joey Pesci dans Les Affranchis. Quoi. Bref. Donc, ouais, Silvio, pour moi, c'est ça. C'est un peu le caractère un peu... ridicule de cette tradition ferme que tous les personnages tentent de suivre et de ménager.
Et alors, autre personnage de mafieux qu'on voit de manière récurrente, hein, il est présent tout le temps, c'est Polly ouais. Gualtieri, incarné par Tony Sirico.
Ah, moi, c'est mon perso préféré.
Lui, il est carrément hilarant, effectivement, parce que pareil, c'est le mec qui essaie de faire des choses bien, mais c'est un peu le Perceval de Soprano, quoi.
Le mec, il est ridicule. Enfin, il est ridicule, mais en même temps, il est extrêmement attachant parce qu'en fait, c'est... Alors, il y a un épisode justement avec Chris où ils sont perdus là, après avoir tué un gars. En fait, ils sont perdus dans la neige et tout. Ils sont complètement paumés. Et l'épisode, il est hilarant parce que...
Avec le russe qui pense avoir tué, en fait, non, après, tu es une biche.
Ouais, c'est ça, exactement. Et en fait, il y a ce truc parce qu'on l'a peut-être pas forcément... Je sais pas si c'est clair encore, en fait, que Les Sopranos, c'est drôle, en fait. C'est vraiment drôle. C'est une série qui est drôle.
Quand ça doit l'être. Ouais.
Oui, non, mais bien sûr, c'est pas une série qui se fout du truc, mais en fait, c'est une vraie série qui est drôle parce que justement, à un moment donné, en fait, dans cette façon entre guillemets de montrer le quotidien derrière, comment dire, la mythologie des gangsters, bah en fait, voilà, il y a quelque chose d'absolument parfois hilarant, quoi. Et Polly représente littéralement ça, c'est-à-dire que et c'est je sais pas, enfin il y a une scène à un moment donné où ils doivent se retrouver, c'est très important, et là t'as Polly qui arrive, fait qu'est-ce que t'as fait de mon Tupperware, tu vois, qu'il est en train de s'énerver parce qu'on lui a pas rendu son Tupperware, et c'est un détail, c'est une phrase en fait d'une seconde. C'est vraiment une seconde, et en fait en gros il repart sur autre chose, et tu te dis putain, mais il y a que Polly qui pouvait sortir ça, quoi.
Et c'est là où on voit toute la finesse d'écriture des personnages. C'est que Polly, donc c'est un des personnages les plus drôles de la série, les plus comiques, mais c'est aussi celui qui a le plus lourd passé en matière d'assassinat.
Mmh. Ouais, déjà. Et puis en plus, c'est un fou. En fait, c'est un vrai fou. Mais c'est un type. C'est assez marrant d'ailleurs la façon dont il révèle assez tardivement hein, dans la série son rapport à sa mère, quoi. Moi, je me rappelle qu'il y a une scène où, justement, parce qu'il arrive pas... Tous ses conseillers, enfin, ses capitaines, en fait, sont censés, à un moment donné, ramener chaque mois, chaque semaine, en fait, une somme. Et cette somme, en fait, ils ont un plafond fixe, en fait. Ils ne peuvent pas descendre en dessous. Il faut ramener ces trucs-là. Et les mecs, des fois, ils n'y arrivent pas, en fait. Et ils essayent d'expliquer à Tony, par exemple, ils disent « Ouais, mais là, tu vois, on a eu un problème avec l'inspecteur des impôts qui est venu, je sais pas quoi, là, et on a eu ce truc-là. » Et en fait, à un moment donné, il y a Polly qui se retrouve sur le grill parce que Tony lui dit « Qu'est-ce que tu branles, là ? Tu me ramènes rien. » Et en fait, pendant tous ces épisodes-là, tu le vois en train de se balader avec sa mère et dans une maison de retraite, et d'un seul coup, il va tuer une des copines de sa mère pour récupérer le pognon. Enfin, et tu te dis, mais il est fou, en fait. Il y a aussi ce truc. Mais il y a ce truc que je trouve absolument hilarant dans son rapport à Tony, où il y a un tableau, en fait, avec un cheval. Tu te rappelles de ça? Il y a un tableau avec un cheval, en fait, et Tony dessus. Et pour lui, c'est une œuvre d'art magnifique, tu vois, alors que c'est un truc de beauf, en fait, qui s'imagine, tu vois, voilà. Et en fait, il le dessine en Napoléon. Il fait changer de tableau pour mettre Tony en Napoléon et il affiche chasser lui, tu vois. Et tu dis, mais c'est quoi ce perso? Enfin voilà, il y a tout un tas de trucs comme ça autour de ce personnage-là que je trouve absolument, hilarant et même encore une fois attachant parce qu'il y a ce rapport donc à sa mère qui n'est pas vraiment sa mère puisqu'il est le fils d'une nonne en fait défroquée. Enfin voilà, donc en fait, il y a tout un truc comme ça et ça en dit tellement long sur le mec qui, en plus d'un seul coup, alors qu'il a 60 ans dans la série, du coup, ni sa mère, celle qu'il a élevée, et il la nie totalement, en fait, parce que le simple fait qu'on lui ait menti pendant toutes ces années-là, ça le rend complètement dingue, quoi.
Enfin, bon, le personnage est devenu un mème sur Internet, essentiellement conspirationniste, sur la phrase « Hey, Tony ». Parce que lorsqu'il pose la question, parce que comme c'est un personnage qui comprend rien, il faut que les choses soient lui soient expliquées simplement. Et donc, bah, je crois que c'est souvent d'ailleurs des trucs plus ou moins antisémites qui sont mis. Mais il y a toujours une question de Hey Tony, et puis le truc conspirationniste par-dessus, qui est sous forme de question, du genre je suis con, il faut que tu m'expliques, quoi. Mais voilà, c'est encore une fois une série qui a posé ses marques un peu partout, ouais. Y compris dans les endroits sombres.
Un personnage beaucoup moins stupide, en l'occurrence, on ferme la ronde des mafiosi avec l'oncle Junior, Corrado Soprano Junior, de son vrai nom, joué par Dominique Chianese. Lui, il a une place particulière.
C'est le boss en fait, et c'est du coup c'est littéralement dans le cadre narratif de la série, c'est la notion de tuer le père en fait, c'est-à-dire pour Tony, même si c'est son oncle en l'occurrence quoi. Et justement, il y a un jeu autour de ce truc qui Junior, il est responsable des deux tentatives d'assassinat sur Tony déjà pour commencer. La saison 6, elle s'ouvre sur un épisode en fait qui envoie Tony en réanimation quoi, puisque en fait parce que son oncle est atteint de démence et il a Alzheimer en fait, en gros quoi, il commence à doucement perdre pied avec la réalité, et d'un seul coup il est persuadé que Tony en fait c'est un intrus dans sa maison, et en fait il sort son flingue et il lui tire dessus, et ça devient en fait une ouverture de saison autour de ça. Donc ils ont un rapport extraordinairement conflictuel. Et c'est un personnage assez pour moi en tout cas, il représente la décadence en fait de la mafia, je sais pas comment dire.
Il est le reste de l'âge, de ce fameux âge d'or que Tony
mais un reste complètement, enfin c'est un vieux monsieur,
c'est un cadavre en fait, hein, c'est à tout point de vue. Mais c'est quelqu'un qui est, comme Didi, il a plongé dans la démence parce que finalement, toute cette ingéniosité qu'il a eue, parce que ça a été quelqu'un de très brillant, de très calculateur, de très puissant, etc., qui a toujours douté de son pouvoir, mais qui arrive à un moment, à la fin, justement, complètement pourri quoi, de l'intérieur. Enfin, le fait qu'il soit malade, qu'il soit rongé, qu'il sache plus ce qu'il fait que tout ce qui... Tout ce qu'il sait faire finalement, c'est ordonner des morts, quoi. C'est une façon
démystifier.
Démystifier, voilà ce que Tony passe son temps à regretter avec nostalgie.
Alors, on ne peut pas parler d'Oncle Junior sans parler de Livia, Ma, la mère de Tony Soprano. Un personnage joué par Nancy Marchand, grande comédienne de théâtre. Un personnage détestable.
Abominable.
Elle est méfiante, misanthrope, manipulatrice, acariâtre. Elle est désagréable au possible.
Et elle est la raison d'être de la psychanalyse de Tony, basiquement.
Et c'est assez marrant parce que c'est un personnage, apparemment, quand le public... quand les acteurs, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs italo-américains dans la série, évidemment, en fait, ont lu le pilote et ils ont lu le personnage et ils se sont dit, mais c'est pas une mère italo-américaine, ça c'est pas possible. Et c'est assez marrant, en fait, de te dire ça parce que tu te dis, mais si, ça pourrait totalement. Déjà parce que David Chase a expliqué que c'était calqué sur sa mère. Voilà.
Ouais.
Et que David Chase, on l'a pas encore dit, mais il a des origines italo-américaines, même s'il s'appelle Chase, c'est ses parents qui ont changé c'est son grand-père, je crois, qui a changé son nom.
On en parle dans l'épisode prochain.
Mais bien sûr que c'est possible en fait. C'est-à-dire que c'est ça en fait où c'est là en fait où il y a un rapport entre ce que quand tu vis effectivement dans ce milieu-là et quand tu le représentes d'une autre manière en fait, quand tu le représentes en fait dans une certaine forme de ce que ça peut vouloir dire psychanalytiquement, que ce personnage-là en fait elle est extraordinairement toxique en fait pour Tony.
Elle va quand même conspirer avec Junior et tenter de tuer son fils deux fois.
C'est ça. Donc en fait c'est quand même un truc en fait où elle est extra. Enfin, je pense, une représentation incarnée de ce que les gens peuvent avoir comme problématique avec leur mère, mais de pousser à un extrême dramatique, en fait, absolument fabuleux, quoi. Parce que elle est littéralement détestable, quoi. Pour moi, c'est un des trucs. Quand tu vois ce personnage-là, tu comprends totalement que Tony part en thérapie, mais alors, voilà quoi. Et alors, c'est un personnage qui disparaît assez rapidement parce que l'actrice est décédée, quoi. Et d'ailleurs, ils ont eu même un gros souci, en fait. Je sais plus, c'est l'ouverture de la saison 2, je crois, où il leur manquait une scène. Et moi, je suis assez étonné par cette scène parce que finalement, je la trouve pas si importante que ça. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Parce que c'est une scène qu'ils ont fait dans la logique en fait de, c'est-à-dire que David Chase s'est dit, alors ils ont fait ça dans Gladiator, donc je peux le faire moi aussi. C'est quand Oliver Reed est mort sur le tournage de Gladiator, ils avaient besoin d'une scène manquante et ils ont numérisé le personnage. On est au début des années 2000, il s'est dit, si Gladiator l'a fait, je peux le faire moi aussi dans Les Sopranos. Ils l'ont fait donc avec l'actrice, sauf que déjà la scène, je trouve qu'elle fonctionne littéralement pas dans Les Sopranos d'un point de vue technologique, c'est-à-dire que c'est vraiment, c'est flagrant, ça se voit, c'est moche, et en fait tu sens que c'est deux personnages qui sont pas voilà. Et après je trouvais que c'était pas forcément si flagrant que ça en fait, que ce qui était important en fait, ce qu'elle avait important à dire. Je pensais que c'était plus simple justement dans le principe des séries finalement d'ouvrir la saison sur son enterrement plutôt que de la tuer en fait, voilà, et de dire bah voilà, et faire peut-être dire à un autre perso le truc, voilà. Donc c'est un des trucs qui est un petit peu dommage, parce que finalement l'ombre de ce personnage est quand même par contre présent assez longtemps en fait, encore derrière, voilà, on en parle encore, on la présente encore,
elle a laissé son empreinte,
voilà. On parle pas forcément de ce personnage là, mais il y a la sœur de Tony en fait, qui est aussi quand même un petit personnage important, et en fait si tu veux, bah elle-même, si tu veux, elle représente certains éléments de la mère, et ça revient aussi en fait dans le relationnel. Donc voilà, c'est un personnage assez
en fait, Junior et Olivia, ils représentent ce que pourraient devenir les protagonistes principaux en fait, s'ils poussent jusqu'au bout leur logique en s'adaptant à cet univers là. Je doute que Livia, elle a été très fonctionnelle en tant que femme de ce monde mafieux dans sa belle jeunesse, entre guillemets, où finalement tout ce qui était potentiellement là pouvait être caché par sa jeunesse, par sa beauté, par ses rires, tout ce que tu veux.
On peut se demander aussi si c'est pas cet univers-là qui a contribué faire ce qu'elle est devenue.
Exactement, tout à fait. Et c'est effectivement quelque chose qui peut attendre Carmela si elle continue sur cette voie.
Et alors à l'opposé, côté âge, justement, là, on a deux personnages qui sont parmi les plus anciens, les plus âgés de la série. Dans les jeunes, on a Mido et Anthony Junior, donc le fils et la fille, et le fils de Tony Soprano et Carmela.
Tout à fait. Le fils qui, je trouve, un petit peu laissé de côté dans les premières saisons avant de prendre un rôle carrément essentiel, à l'inverse de la fille. Il y a une relation père-fille qui est très importante dans les premières saisons, qui ensuite est un peu perdu.
Le personnage de la fille s'extrait un peu du truc, c'est-à-dire qu'on a dit que c'était des républicains, les personnages de ouvertement, que ce soit Carmela ou Tony. Carmela le dit ouvertement qu'elle a voté Bush à l'époque et tout ça, etc., etc. Et la fille, elle devient justement, elle va à New York et d'un seul coup, elle devient beaucoup plus, en fait, elle commence à s'occuper, voilà, libérale, elle commence à s'occuper, en fait, elle est volontaire, en fait, pour aider des gens, des immigrés, en fait, dans le besoin juridique, etc., etc. Ce genre de choses, elle se destine soit à la médecine, soit en fait à la loi, enfin à être avocat, quoi.
Elle va prendre le contre-pied finalement de sa famille.
Exactement. Alors que AJ, c'est un personnage en fait qui, pour le coup, a énormément de besoins d'un père qui finalement ne s'occupe pas tant que ça de lui en fait. C'est-à-dire qu'il y a ce truc-là, et c'est là où ça devient intéressant en fait dans les dernières saisons, quoi. C'est-à-dire que vraiment cette idée que son nom, en fait le nom Soprano, puisse lui permettre à un moment donné d'exister en tant que mini caïd ou je sais pas quoi, etc., etc.
C'est vrai qu'il y a quand même cette ambivalence avec Christopher d'un côté qui n'est pas le fils de Tony Soprano, mais qui est considéré comme son potentiel successeur, et le propre fils de Tony Soprano qui n'est pas du tout envisagé à aucun moment.
Mais parce que je pense que en fait c'est assez intelligent d'un point de vue de même pas vraiment l'évoquer en fait, parce que Tony Soprano en fait casse le cycle familial. C'est-à-dire vraiment, c'est-à-dire que lui, il est dans cette logique de, avec sa thérapie, avec l'idée d'essayer de comprendre en fait ce qui lui arrive, etc., etc., il casse ce cycle-là. Et comme AJ est assez jeune en fait, au tout début de la série, et c'est des personnages, enfin c'est des acteurs qu'on a vu grandir au fur et à mesure, quoi. Ça semble cohérent en fait que s'il soit pas envisagé. Et pourtant, lui essaye à un moment donné, pas forcément, il essaye d'être ça. C'est-à-dire qu'il y a cette scène où il essaye à un moment donné de tuer oncle Junior, quoi, mais il n'y arrive pas, il est incapable en fait de d'être son père, et surtout il le fait parce qu'il se dit mon père est faible, il ne supporte pas de voir l'idée d'un père faible en fait entre la vie et la mort, etc., etc. Donc il y a tout un truc comme ça en fait qui est assez intéressant parce que en tout cas ça lui donne en fait une certaine force, un certain truc, parce que ils n'arrêtent pas, et la famille le voit comme un personnage d'ailleurs gentil tout le temps, c'est-à-dire on comprend pas ce qui lui arrive, il était tellement gentil, et ça c'est vrai que c'est un truc, ça sonne vrai en fait quand tu vois en fait cette écriture, et c'est ce qui lui donne du corps en fait à ce personnage là je pense.
Bon, l'heure tourne, on va devoir se quitter bientôt. On a encore deux petites minutes. Allez, je vous laisse choisir chacun un dernier personnage dont vous allez nous dire quelques mots rapidement. Si voilà. Vous voulez, hein.
Moi, j'aime bien. Il y a un personnage que j'aime bien parce que, en fait, c'est un gros bébé dans la série. C'est Bacala, quoi.
Bacala, oui.
Ouais, parce que, en fait, je le trouve hyper attachant. C'est-à-dire que c'est un personnage qui, à un moment donné, perd sa femme. Il se remarie avec la sœur de Tony Soprano. Il est extrêmement, volubile. Enfin, il est vraiment, et il joue avec des trains électriques, quoi. Et c'est un vrai, c'est un vrai gentil presque effectivement bon tu vois que ça enfin il a tout à fait le physique d'un homme de main mais en fait il est et on le voit d'ailleurs à un moment donné commettre des crimes hein, tuer des gens et tout ça etc mais c'est presque bizarre en fait à chaque fois quoi donc il y a lui et moi je rajouterais vite fait mais j'en ai parlé dans le premier épisode Vito en fait qui est le personnage de gangster homosexuel que je trouve assez aussi attachant dans la façon dont il est dont on montre en fait tout le dilemme qu'il a vis-à-vis de sa condition et vis-à-vis du milieu dans lequel il traîne quoi.
Ouais, on pourrait parler un petit peu de Tony B qui est joué par Steve Buscemi qui a cette tentative de vouloir intégrer une vie normale en fait et on voit bien comment justement il est le produit de son environnement et en plus Buscemi c'est un peu spécialisé dans ces personnages finalement faibles et qui se retrouvent complètement pris par des démons anciens quoi à rechuter misérablement comme une merde là-dedans c'est dramatique mais voilà c'est plutôt bien interprété.
Tout à fait.
Très bien. Bon finalement on a plutôt bien tenu l'horaire, je suis fier de vous. Et maintenant qu'on a brossé le portrait de tous ces personnages, de quoi est-ce qu'on parle la semaine prochaine ?
Alors cette fois, j'ai raison. On va parler de l'équipe technique et des comédiens. Quoi.
Ouais, et on va tout à fait. On passe de l'autre côté de la caméra pour en apprendre plus sur l'équipe technique. Donc scénariste, producteur, réalisateur, David Chaise, évidemment le showrunner de la série. Et puis le casting aussi. Mm-hmm. Donc on a encore du pain sur la planche. Ouais. Rafik, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour le second épisode de cette collection.
Merci Clémence.
Merci Clémence.
We Love Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur weloveseries.bnpparibas et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée aux Sopranos. À très vite.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.